Bon, alors écoutez, moi je vais vous parler des mots, bien sûr, mais je vais surtout vous parler de la langue française. Cette langue qui est une langue latine, bien sûr, on dit que c'est une langue latine, on le dit et on a raison, mais c'est une langue latine qui a eu beaucoup d'influence et peut-être qu'on pourrait remonter très 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 loin dans le temps, peut-être à l'arrivée des Gaulois dans ce pays qui était occupé par d'autres gens avant l'arrivée des Gaulois. Les Gaulois étant arrivés vers le milieu du premier millénaire avant Jésus-Christ, et qui ont continué à parler gaulois pendant un millénaire. C'est incroyable, mais c'est vrai, pendant un millénaire, on a parlé gaulois dans notre pays. Et bon, bien sûr, au moment de la chute de l'Empire romain, c'était terminé. Il n'y avait plus de Gaulois. Heureusement, le gaulois s'était maintenu dans une partie de notre vocabulaire, et voilà, on va parler des mots d'hier, plutôt d'avant-hier d'ailleurs que d'hier, puisque on va retrouver du gaulois dans le latin qui a ramassé une partie de ce vocabulaire gaulois. Ce vocabulaire gaulois qui est un petit peu particulier, il n'est pas très nombreux. Dans la langue française, on n'en a pas des masses. C'est pas comme les mots germaniques ou les mots italiens ou les mots plus récemment anglais. Non, non, non. On a peu de choses. On a presque 200 mots, disons. 200 mots, c'est pas grand-chose pour la langue française. Des mots gaulois, veux-je dire. Alors, j'ai donc dit que ces Gaulois sont arrivés dans un pays où on parlait d'autres langues. C'est vrai. C'est vrai, il y avait les Ibères, il y avait les Ligures, et puis il y avait les Gaulois. Bon, alors qu'est-ce que c'est que le Gaulois par rapport aux autres langues, par rapport aux autres langues anciennes? Alors, il y a un critère très, 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 très simple. Le Gaulois, par rapport aux autres langues, c'est une langue qui n'a pas, dans son système phonologique, c'est-à-dire dans sa prononciation, qui n'a pas la consonne P. Peu. Il n'y a pas de P dans le gaulois. Bon, il faut dire que bon, les Gaulois, on va les Celtes, on va les diviser en deux groupes. Il y a eu le groupe des Goïdels, c'est-à-dire ceux qui ont donné le nom à la langue gaélique. Et puis, il y a les Britons, qui ont donné leur nom à la langue bretonne, bien entendu, mais aussi qui se sont maintenus au Pays de Galles, en Grande-Bretagne. Donc, je disais que cette langue n'a pas de. C'est la manière que l'on a pour distinguer le gaulois du latin, du grec et des autres langues indo-européennes. Alors, des exemples. Alors, parce que, évidemment, vous allez me dire, je ne vous crois pas. Je ne crois pas, qu'est-ce que c'est que ça, une langue, il n'y a pas de paix, qu'est-ce que ça va? Bon. Eh bien, il faut savoir qu'en gaulois, cette consonne qui est une consonne bilabiale, hein, avec les deux lèvres, on la prononce avec les deux lèvres. Or, les deux lèvres, c'est mou. C'est mou. Si on ne ferme pas très, très, très bien les lèvres, eh bien, on n'entend pas le P. Ce n'est pas du tout comme un T ou un D. Pourquoi? Parce que T et D sont prononcés avec la pointe de la langue contre les dents. Les dents, c'est dur. Et donc, ça marche bien. Et ça se maintient un petit peu mieux que le P. Bon, alors, comment va-t-on savoir où sont ces mots qui n'ont pas de P? Eh bien, on va les retrouver dans une partie de la Gaule. Parce qu'on n'est pas encore, on n'en est pas encore à la France, parce qu'après je vais vous parler de la France, bien sûr. On va le trouver dans une partie de la Gaule, et en particulier dans l'Armorique. Alors pourquoi Armorique? Pourquoi est-ce que je vous dis que Armorique est une preuve qu'en gaulois, il n'y avait pas de P? Pourquoi? Et parce que cette première partie du mot, c'était arrêt. Et la deuxième partie, c'est morica ou moricum, avec un suffixe gaulois qui permet de fabriquer un adjectif. Alors, qu'est-ce que c'est que moricum ou morica? C'est, pardon, ce n'est pas près, c'est qui a rapport à la mer. More en gaulois, c'est la même chose que mare en latin. Très bien. Et devant, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait are, il y avait une préposition. Cette préposition, elle correspond à quelque chose que nous connaissons en grec et en latin. Quoi donc ? Ça veut dire à côté de, près de. En latin, pro, et en grec, para. Donc, près de la mer. Et qu'est-ce que c'est que l'armorique ? C'est bien ça. C'est le pays qui est près de la mer. Voilà. Alors, vous allez me dire, oui, mais bien sûr, ça, c'est la Bretagne, normal. Donnez-moi d'autres exemples. Ben, je vais vous en donner un autre. Par exemple, vous avez la ville d'Arles, dans le midi de la France. La ville d'Arles, c'était Arré Laté. Arré, qu'est-ce que ça veut dire ? Pro, para, etc. Près d'eux. Et laté, eh bien, il manque ce P en question. Et ça donne quoi ? Ça donne platé. Et qu'est-ce que c'est que platé ? À quoi ça ressemble ? Ben, ça ressemble à un pays plat. Donc, Arles, c'est bien. D'ailleurs, géographiquement, ça correspond. C'est bon, c'est pas faux. C'est pas faux. Et j'aimerais bien traverser les Alpes et puis voir si par hasard, en Italie, on va trouver quelque chose du même genre. Eh bien oui, on va trouver. Alors, on trouve la ville de Milan. La ville de Milan, c'était en latin « mediolanum ». Medio, au milieu de. Lanum, il manque le P. Planum, au milieu de la plaine. Et voilà l'importance des toponymes pour essayer de retrouver ce qu'il y a de plus ancien dans nos langues. Avec les toponymes, on y arrive. Quelquefois, il s'agit de toponymes, c'est-à-dire de noms de lieux, de petites bourgades ou de grandes villes, etc. Ça peut être aussi des oronymes, c'est-à-dire noms de montagnes, ou alors des hydronymes, donc noms des cours d'eau, etc. On a aussi les odonymes, qui seraient les noms des rues, les noms des chemins, disons. Donc, voilà des exemples qui permettent de retrouver une partie de ce gaulois qui a disparu, la langue ayant disparu, comme je vous le disais, au 5e siècle après Jésus-Christ, après être arrivé ici au 5e siècle avant. Et donc, cette langue a laissé quelques traces dans la langue des Romains, puisque les Romains vont arriver. Hein. Mais là, ils ne sont pas encore là, mais quand même, ils nous ont transmis une partie de ce vocabulaire celtique, comme par exemple alouette, comme par exemple, je vous ai sorti, char, charru, charrette. Char, charru, charrette, eh bien, ce sont des mots d'origine gauloise. Pourquoi est-ce que c'est tellement important ? C'est parce que les Romains ont appris des Gaulois la fabrication des roues. Les roues, ils étaient très très forts dans la fabrication des roues, ce qui fait que tout ce qui était mouvement, tout ce qui permettait de fabriquer des véhicules assez solides était fait, ils l'ont appris des Gaulois. Donc on a char, charrette, charrue, avec ce petit problème de l'orthographe, mais je dirai un petit mot de l'orthographe après pour rappeler ces petites aberrations de notre langue où charrette, deux R, chariot, un seul. Bon, mais ça, ce sera pour tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on a comme autre mot gaulois ? Sillon, le sillon, c'est également un mot gaulois. La lande, le mouton et la braguette. Alors là, vous allez me dire, mais quoi, braguette ? Comment braguette ? Oui, il est vrai qu'il y a un suffixe latin, là. Hein ? Ita, c'est un suffixe latin qui est un diminutif. Mais qu'est-ce que c'est que ce braga devant ? Ben, braga, braca d'ailleurs en latin, ça a donné le mot vieux français que nous connaissons, les braies. Hein, les braies. Donc, si vous voulez, au début, la braguette, c'était la petite braie. Voilà. Et d'ailleurs, on a un autre cas où on a un mot gaulois qui a eu une aventure extraordinaire. Car il est parti d'Angleterre, de France à un certain moment, au Moyen-Âge, 1066, vous vous rappelez, Guillaume le Conquérant va en Angleterre, et puis il y a des mots français qui vont là-bas. Et il y en a un qui était bouge. Bouge étant, le bouge étant, ou la bouge étant, un petit sac dans lequel on mettait des pièces de monnaie ou des objets précieux. Et donc ce mot est arrivé en Angleterre sous la forme bougette. Et puis les Anglais n'ont pas su le prononcer. Ils n'ont pas dit bougette, ils ne savaient pas prononcer bougette. Et comment ont-ils dit ? Ils ont dit budget. Budget. Et quand est-ce qu'il nous est revenu ce mot ? Au moment de la Révolution. Au moment de la Révolution française, eh bien, notre petite bougette nous est revenue sous une nouvelle appellation, avec une nouvelle prononciation et une nouvelle orthographe. D'où le budget. Donc aujourd'hui, vous avez à la fois des mots gaulois très anciens qui ont complètement disparu, que nous ne connaissons plus. On ne les trouve que dans les toponymes. Et puis d'autres mots, ben, comme budget par exemple, hein, mais qui a fait une petite promenade en Angleterre en attendant. Et évidemment, la bougette elle-même, elle a disparu. Hein, on ne la reconnaît même plus. Alors qu'est-ce qu'on a comme nom de lieu qui nous permettent de reconnaître des mots d'origine gauloise? Vous avez tous les noms en D-U-N. D-U-N. Châteaudun, Issoudun, etc. Lyon. Alors évidemment, Lyon, on ne voit plus. On ne le voit pas bien, mais on sait bien que c'était Lugdunum. Et Dunum, c'est Duno gaulois qui a donné Dun en français. Hein. Donc ça marche. Ça marche d'une certaine façon. Et qu'est-ce que c'est que Verdun ? La ville de Verdun. Alors attention, là, on a bien Dun qui était Dunum, hein, donc la forteresse. La forteresse élevée, généralement. Et puis, qu'est-ce que c'est que ver dans Verdun ? Alors, pensons un petit peu au grec et au latin. Ver, c'est la même chose que super en latin et hyper en grec. Donc, qu'est-ce que c'est que Verdun ? C'est la super forteresse. Et qu'est-ce que c'est que Vercingétorix ? Alors, dans Vercingétorix, je vous laisse deviner. Rix, à la fin, c'est qui ? C'est Rex, c'est le roi. Vert, très, très grand, très. Et au milieu, eh ben c'est le guerrier. Donc, c'est le roi des meilleurs guerriers, ou alors le super roi des guerriers. Voilà. Donc, bien. Bien. Donc, voilà un des exemples, et il y en a tellement de ces mots en d'un, de ces noms en d'un dans, en France, qu'on pourrait continuer pendant presque des heures pour en trouver. Je suis sûre que vous en avez qui vous viennent à l'esprit. La ville d'Évreux, c'est un nom gaulois également. Ça vient de Ébourreau et qui désignait l'If. Donc voilà. Alors on a. Bien sûr, on retrouve cette même racine, par exemple au Portugal avec Évora et en Angleterre avec York. C'est la même racine, c'est le même mot d'origine gauloise, l'origine celtique. Alors nous disons gaulois et puis la plupart des autres pays d'Europe disent celtique, mais bien sûr c'est la même chose et comme on sait, Jules César rappelle dans la guerre des Gaules que eux-mêmes s'appelaient les Celtae, disait-il, mais nous, Romains, nous les appelons Galli, des Galli, d'où Gaulois, bien entendu. Qu'est-ce que nous avons comme autre nom de Gaulois, rappel du Gaulois ? Eh bien, nous avons Nanto, N-A-N-T-O, qui est une vieille racine, enfin, une vieille base gauloise, qui signifie la vallée. Et donc, on a dans Nanto, on a quoi ? On a Nantes, on a Nantua, on a, j'en ai une autre que j'oublie là, Dinan. On a Dinan également qui vient de Nanto. Chambord, ça vient de Cambo qui est le méandre, la courbure. Hein, car je crois bien que Chambord se trouve sur une petite méandre du fleuve. Donc, nous avons là une certaine quantité de mots. Et alors, et Melun ? Ah, ah, Melun. Melun, oui, c'est ça. Alors, ça signifie, c'était la place d'un oppidum, hein, un oppidum romain. Donc, on a Mel, qui est sa Melo, etc. Et puis, à la suite de ça, il y a un suffixe. Une deuxième partie, disons, qui n'est pas gauloise, elle est pré-gauloise. Et dans les archives, il est dit qu'à un certain moment, ça n'était plus Mello-Mesum ou un truc comme ça, mais c'était Mello-Dunum. C'est-à-dire qu'on retrouve notre Dunum qui a été tellement fréquent dans notre langue. Enfin, notre pays, plutôt, puisque ce sont des noms de lieux. Alors, les noms de lieux, c'est... Vous avez une question ? Si vous avez des questions, j'aime beaucoup être interrompu. Donc, allez-y. Vous avez une question ? Oui ? Avec plaisir. Ah non, Luc Dunum, on se demande ce que c'est. Alors... Oui, alors, normalement, il y a plusieurs hypothèses, dont l'une est le dieu Lug. Le dieu Lug qui était considéré comme le dieu des arts et métiers. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Vous savez que pour les étymologies, quelquefois, on est contredit. Hein, au bout d'un moment, on trouve autre chose. Et, ce qu'on peut dire, c'est que lorsque les Romains sont arrivés et que les Gaulois étaient là, ils ont eu la surprise de voir qu'il n'y avait pas beaucoup d'inscriptions gauloises. Ils n'aimaient pas écrire, ces gens-là. Ils n'écrivaient pas, d'ailleurs. Ils ont écrit... généralement avec un alphabet latin ou l'alphabet grec, et ils avaient eux-mêmes un alphabet à eux, mais pas nos Gaulois de Gaulle, si j'ose dire, les autres. Hein, les Celtes ont eu l'alphabet ogamique, qui est donc un alphabet un peu, comment dirais-je, liturgique, nous dirons, c'est-à-dire un peu religieux, et qui était très, 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 très compliqué. On ne trouve de traces que sur des pierres, et cette chose était assez bizarre. Il n'écrivait pas sur le plat de la pierre, mais sur la tranche. C'est-à-dire qu'on écrivait, par exemple, les consonnes, c'était des grands traits, de grandes entailles. Hein, il y avait 5 possibilités, 1, 2, 3, 4, 5, soit d'un côté, soit de l'autre, soit des deux côtés. Pour les consonnes. Et puis les voyelles, c'était des petites entailles, petites comme ça, 5 aussi. Donc, c'était pas trop facile. Si un jour vous allez à l'université de Dublin, vous verrez que dans les grands couloirs de la cour, nous dirons, de l'université de Dublin, vous avez beaucoup de pierres, des pierres élevées, disons, sur lesquelles il y a ces inscriptions. Et c'est assez remarquable parce que finalement, il faut une pierre d'au moins 2 mètres déjà pour écrire Vercingétorix. Hein. Et après, qu'est-ce qu'on va raconter ? Rien. Une autre pierre pour dire Vercingétorix, fils de machin. Hein. Puis après, qu'a-t-il fait ? Qu'était-il ? Il était doux, il était je ne sais quoi, Rix, etc. Donc, voilà. Donc, c'était des gens qui n'écrivaient pas. On dit que s'ils n'écrivaient pas, c'était parce qu'ils avaient une idée très, très particulière de la pédagogie. Voilà. Leur idée, c'était la suivante. Si nous diffusons notre science par écrit, nos disciples ne vont pas nous écouter. Parce qu'il y aura le texte. Hein. C'est un peu comme le professeur d'université qui dit « Moi, je ne veux pas de polycopier de mon cours parce que je veux qu'il m'écoute. Je ne veux pas qu'il bavarde pendant le cours et je ne veux pas qu'il se croit autorisé à ne pas venir puisqu'il y a le... » Voilà. Eh bien, c'est ça. C'est ça, les Gaulois. Ils n'ont pas eu envie. Et du coup, eh bien, on ne connaît pas grand-chose. On connaît, hein, on a quand même des inscriptions, on a de grands spécialistes qui ont fait des dictionnaires, qui ont fait des études approfondies, mais évidemment, on n'est pas très au courant. Alors, ce qui s'est produit, c'est que lorsque les Romains sont arrivés, les Gaulois se sont mis à apprendre le latin. Alors, on dit toujours, mais il faut vous méfier des linguistes qui vous disent ça, on dit ils ont appris très vite le latin. Ça veut dire quoi, très vite? Eh bien, ça veut dire quelques siècles. Car, quand on y pense, les Romains sont arrivés en deux vagues. La première vague, c'est celle qui a abouti à la Provincia Narbonensis, c'est-à-dire la première province romaine, et qui a donné naissance à deux mots de la langue française, province et Provence. Donc on a les deux. Donc c'était la première vague. Ça, c'était en moins 120. Et puis, deuxième vague, la grande vague, celle de Jules César. Jules César, 60 ans plus tard, Jules César occupe l'ensemble de la Gaule, et c'est à ce moment-là que les Gaulois se mettent à apprendre le latin. Ils envoient leurs enfants, les nobles envoient leurs enfants dans les écoles latines, et les enfants apprennent le latin. Et quand on voulait monter dans la société, il fallait savoir le latin. Du coup, ils ont appris le latin, avec leur accent, leur façon de prononcer, avec leur... leur structure grammaticale, avec leur vocabulaire. C'est comme ça qu'il y a une partie du vocabulaire gaulois qui est entrée dans la langue latine, qui ensuite va devenir le français un peu plus tard. Et voilà donc cette langue latine qui va se transformer. On dit que cette langue latine va se dialectaliser, c'est-à-dire qu'elle va se fragmenter en plusieurs variétés, c'est-à-dire que ce latin... Ça ne va pas être véritablement, et très loin, ça ne va pas être le latin de Cicéron ou de Virgile ou d'Horace, pas du tout. Ça va être quoi? Ça va être la langue populaire, la langue des soldats, des légionnaires, qui ne parlaient pas le latin classique, qui parlaient ce qu'on a appelé le latin vulgaire. Alors, quelle est cette différence? Oh, il y en a plusieurs, mais quand même, je vais vous donner quelques exemples qui vont vous frapper tout de suite. On ne disait pas « domus » pour dire la maison. On disait « casa ». Or, ce « casa », c'est le mot qui a donné le mot français « chez », C-H-E-Z. Quand on dit qu'on va chez un tel, on dit en fait « je vais dans la maison de un tel ». Voilà. Il y en a encore d'autres. On ne disait pas pulcher, pulcra, pulcrum, pour dire beau. On disait bellus, bella, bellum. C'est-à-dire que c'est le mot qui nous est resté. Et pulcher, il a disparu. La pulcritude, on ne connaît pas. Mais peut-être qu'on pourrait le redonner pour les mots de demain. Parce qu'on ne ferait que revenir à notre base latine. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on avait? On ne disait pas ecus pour dire le cheval, on disait caballus, avec cette évolution de caballus en cheval, etc. Donc, à chaque fois, on va retrouver des mots latins, mais des mots latins qu'on ne trouve pas dans le gaffio. Dans le gaffio, vous pouvez toujours chercher caballus, vous ne le trouverez pas, il n'y est pas. Hein? Bien sûr, puisque dans le gaffio, il n'y a que le latin classique et pas le latin parlé, pas le latin vulgaire. Voilà. Alors, je suppose que vous en avez beaucoup dans votre tête qui vous viennent à l'esprit. Et donc, ce latin va nous revenir un petit peu plus tard avec des mots un peu plus savants, comme pour ecus, on va le retrouver dans équitation ou équestre un petit peu plus tard. On va retrouver également, alors le pulcher, je ne le trouve pas. Mais on en a d'autres qu'on va retrouver. On ne disait pas comere, ou on disait pas comme ça. Hein. On disait manducare, qui a donné manger et puis mâcher aussi. Donc voilà. Et alors, ce comere ou comedere a donné quoi donc plus tard? Comestible. Hein, on est retombé dessus et pour fabriquer des mots savants, des mots beaucoup plus savants que des mots que ceux qu'on a l'habitude d'employer. Ce qui veut dire que finalement, ce latin classique, on l'a un peu perdu et puis on l'a retrouvé et puis finalement, ça fait un petit peu la qualité de notre langue française qui est à la fois populaire et à la fois classique et à la fois savante. Hein. Mais en ce qui concerne le côté savant, c'est un petit peu plus tard que ça nous est arrivé. Il nous est resté quand même certaines formes, certains mots typiquement latins, mais vraiment latins, je veux dire, pas transformés. Des mots comme par exemple, voyons, recto verso, comme campus, mais campus, c'est pas, on l'a repris à l'anglais, finalement, l'anglais d'Amérique, hein, c'est pas tout à fait ça. On avait également lapsus, hein, lapsus, c'est le vrai mot latin qui nous est revenu, in fine, hein, enfin. Ça se dit encore aujourd'hui, on dit in fine. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Il n'y a pas de raison, franchement, de dire in fine plus dur que de dire enfin. Mais bon, peut-être que c'est un petit tic des gens qui veulent faire savant. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Peut-être est-ce ça. Et donc, cette langue latine est en train de se modifier. Elle va se modifier non seulement parce que dans chacune des régions où on parlait gaulois, ce n'était pas tout à fait le même gaulois que l'on parlait. Il y avait une centaine de tribus quand même, donc qui parlaient différemment, chacune parlait différemment, mais aussi parce qu'allaient arriver d'autres populations qui parlaient d'autres langues. D'où les invasions germaniques. Alors là, ça n'est plus du gaulois qui va influencer le latin, mais c'est une langue germanique, le francique, la langue des Francs, qui va influencer ce latin qui était déjà en train de bouger. Hein. Il était déjà en train de bouger. Les premiers siècles de notre ère sont peuplés de populations germaniques qui circulent dans toute l'Europe. On ne sait pas très bien où ils sont. À chaque fois, ils bougent beaucoup. Ils sont très, très, très remuants. Nous en avons une certaine quantité chez nous. Nous avons eu les Francs, surtout les Francs, qui nous ont beaucoup influencés, puisqu'ils nous ont laissé le nom de notre langue française, le nom de notre pays et jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps le nom de notre franc, hein, de notre monnaie avant l'euro. Bon, donc il y a eu les Francs, il y a eu les Burgondes, il y a eu les Burgondes, donc d'où Bourgogne, hein, la Bourgogne, mais pas beaucoup de vocabulaire des Burgondes. On a eu les Alamans qui ont laissé une langue quand même, l'alsacien. Et puis, les Visigoths. Mais alors, attention, ces Visigoths, ce sont des Goths. Hein. Ce sont des Goths. Et les Goths, ils viennent d'où? Ils viennent du Nord, ils viennent de Scandinavie, de l'île de Gotland. Hein, l'île de Gotland, qui était peuplée de ces Goths qui ensuite sont partis, sont allés vers le sud, vers l'est, ils sont allés vers la Russie, etc. Puis ils sont revenus vers le sud de l'Europe et ils se sont séparés en Visigoths et Ostrogoths. Les Ostrogoths se sont arrêtés en Italie, dans leur chemin vers l'ouest. Hein, les Ostrogoths se sont arrêtés en Italie, les Visigoths ont continué, ont traversé les Alpes, sont arrivés dans le sud de la France, puisque c'était la France, hein, à ce moment-là déjà. On commence à parler de France vers le 6e siècle, hein, 6e, 7e siècle. Et donc les Visigoths sont là. Il y a il reste un certain temps dans le sud de la France, mais surtout, ils traversent les Pyrénées et il y a une grande civilisation visigothique dans le sud, dans l'Espagne. Et c'est une civilisation qui va durer, l'influence des Visigoths va durer jusqu'à l'arrivée des Arabes en 711. Et à ce moment-là, c'est une autre influence qui va jouer un rôle important dans la constitution de l'espagnol. Mais revenons à nos germains à nous. Alors, nos germains à nous, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir qu'ils ont été beaucoup plus ils ont beaucoup plus influencé le nord du pays, jusqu'au milieu de la France à peu près, plutôt que le sud du pays. Dans le sud du pays, on avait eu le latin qui a été très très bien implanté longtemps avant le nord, et où cette langue latine est restée très très vivante, et où il y a eu moins d'influence des Francs. Dans le nord, il y a eu donc l'influence des Francs. C'était une influence de la prononciation, du vocabulaire et de la grammaire. Je vais vous donner des exemples de chaque. En ce qui concerne la prononciation, il y a quelque chose de... qui s'est maintenu avec l'histoire de notre langue et l'histoire de notre orthographe, puisque évidemment ça a eu une influence capitale ensuite, c'est que les Francs avaient dans leur langue, ils avaient un H, un vrai H, qui se prononçait. Qu'est-ce que c'est qu'un H? C'est la prononciation d'un souffle d'air qui passe, qui vient des poumons et qui ressort sans blocage, disons, hein, qui ressort par la voie buccale. Donc, c'est... Or, nous avons ce que nous appelons le H aspiré. Mais H aspiré, c'est pas... C'est-à-dire que c'est de l'air qui vient. Mais c'est pas ça. C'est pas ça, notre H. Eh bien, ça, c'est l'histoire des Germains. C'est-à-dire que dans les langues germaniques, on sait bien qu'il y a un H, un vrai H, qui se prononce en anglais, en allemand, par exemple, hein, puisque ce sont des langues que nous apprenons en France. Et donc, ce qu'il y a eu, c'est que le reste de cette influence va se manifester dans notre orthographe, où on a des H dits aspirés et des H dits non aspirés. Alors, les H dits aspirés, c'est quoi ? Eh bien, ce sont ceux qui viennent du germanique, comme par exemple le hangar, les halles, etc., le hanneton, etc. Mais dans les mots d'origine latine, il n'y a pas d'H aspiré. Et il y a des H qui ne se prononcent pas. D'ailleurs, ils ne se prononcent pas non plus dans les mots venus du germanique. Et qu'est-ce qu'on a ? Rappelez-vous, les hommes, il y a un H pourtant là. Et c'est un mot latin. Et on dit les hommes, on ne dit pas les hommes, on dit les hommes. On dit l'honneur, l'apostrophe honneur. On ne dit pas le honneur. Hein? Et alors, qu'est-ce qui s'est passé là ? Eh bien, c'est que le H se prononçait dans les mots germaniques et ne se prononçait pas dans les mots latins, car lorsque le latin est arrivé en Gaule, déjà, on ne le prononçait plus en latin. Voilà pourquoi, aujourd'hui, on dit les hommes et l'honneur ou les honneurs, et on ne dit pas les hommes et les honneurs. Voilà. Et alors, ce qu'il y a eu, c'est que, quand on est allé en Angleterre, avec Guillaume, hein, on a une longue histoire avec les Anglais, eh bien, quand certains mots sont passés en Angleterre, eh bien, quand ils sont passés par le français, eh bien, il y a eu des mots pour lesquels, même en anglais, on ne prononce pas le H. Comment prononce-t-on le mot honneur en anglais ? Honor. Comment prononce-t-on le mot honest ? Enfin, je vous le dis, honest, voilà, honest, honor. Et puis l'heure, hour, pas hour. Voilà, intéressant. C'est intéressant. Tout ça, c'est une histoire de germanique, de langues qui ont influencé nos façons de prononcer. Ça, c'était la prononciation. Et puis, la grammaire. Alors, la grammaire, il faut se rappeler aussi que dans les langues germaniques, l'adjectif se place en général devant le nom. En gaulois, il y avait le choix. En latin aussi, il y avait le choix. Mais la plupart du temps, c'est plutôt après. Hein? On dit, par exemple, la langue anglaise. On ne dit pas l'anglaise langue. Mais on a eu Astérix, les romaines galères, hein, vous vous rappelez. Mais c'était pour rire. Hein? C'est pour rire qu'il a mis le mot romaine devant pour que ça fasse un petit peu plus britannique, disons. Hein? Et là, on va retrouver notre histoire des toponymes. Et si vous regardez les toponymes de France. Prenez une carte Michelin et puis essayez de voir où sont les toponymes où l'adjectif est devant et ceux où l'adjectif est après. Eh bien, ceux qui ont l'adjectif devant, ce sont les régions dans lesquelles il y a eu le plus d'influence des Francs, l'influence germanique. Et donc, c'est ainsi qu'on va avoir, par exemple, Neuville dans le nord et Villeneuve dans le sud. On va avoir Francheville dans le nord, Villefranche dans le sud, etc. Et si vous faites le calcul, vous allez voir que c'est assez extraordinaire parce que ça se retrouve. Alors, quelquefois, on a du mal parce que l'évolution phonétique a fait qu'on a oublié, ça ne se voit pas. Ça brouille un petit peu les choses, mais tout de même, c'est intéressant de le voir. Vous avez Châteauneuf du Pape, hein, Châteauneuf, et puis Neuchâteau dans le Nord, ou Neuchâtel dans le Nord, etc. Vous pouvez en trouver véritablement beaucoup. Donc voilà encore une influence germanique. Et enfin, le troisième point, qui est le plus important finalement, c'est le vocabulaire. Alors là, on a emprunté des tas de choses. Et en particulier, presque tous nos noms de couleurs. Blanc, bleu, gris, brun, fauve, sont des mots d'origine germanique. Et on se pose la question, on dit, mais enfin, pourquoi ? Il y avait bien des mots latins pour dire ces couleurs. Oui, c'est vrai, il y en avait peut-être trop. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Romains étaient des gens qui ne s'intéressaient pas au chromatisme des couleurs, mais au fait que la couleur était était brillante ou mate. Du coup, on avait deux mots pour dire blanc, deux mots pour dire bleu, même trois. Deux mots. Pour chaque fois, on avait deux mots, soit que c'était brillant ou que c'était mate. Donc, vous avez par exemple pour le blanc, vous aviez albus. Et Candidus. Albus, on connaît, ça a donné aube, n'est-ce pas ? Bon, on connaît. Aube épine, hein, l'épine blanche. Et puis Candidus, on connaît aussi, on connaît Candide. Mais ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la couleur. Hein, c'est plutôt psychologique, disons. Hein, Candide, c'est plus abstrait, etc. Donc, voilà une série de mots qui... pour lesquels on peut se poser la question. Donc, on a tous ces noms de couleurs, mais on a aussi beaucoup d'autres vocabulaires, du vocabulaire de la nature, comme par exemple le mot jardin. Le mot jardin est un mot d'origine germanique. C'est la même racine que le mot latin hortus, avec un H d'ailleurs, qui ne se prononçait pas. Hein. Mais bon, on l'a également. Jardin, pourquoi est-ce que je vous parle de jardin ? Ben, c'est parce que jardin, à l'époque, ça n'était pas le jardin que nous connaissons aujourd'hui. Un jardin, aujourd'hui, c'est un endroit où on cultive des fleurs d'agrément, des plantes, des choses un petit peu jolies pour le plaisir de l'œil, mais pas du tout pour la nécessité. En fait, au début, ça désignait simplement... Un lopin de terre entouré de limites, car les Germains adoraient marquer leur territoire, d'où le verbe marquer d'ailleurs, et d'où le nom du marquis et des marches. Hein. Ce sont donc les limites. Le marquis était celui qui était chargé de maintenir ces limites, justement, hein, ces marches, justement. Et voilà l'influence, disons, et ce mot a changé de sens, bien sûr, avec l'évolution, avec le temps. S'il y a d'autres questions, vous y allez. Hein. Oui, c'est ça, j'y me semblais bien. Et bien voilà, donc le mot latin et le mot germanique. Voilà, oui, c'est ça. Et alors, je suppose qu'il y en a un qui est plus... plus jardin d'agrément et l'autre qui est peut-être plus jardin de... Hein ? Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Mais enfin, voilà, c'est très bien. Voilà, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans d'autres langues, hein, bien sûr. On parle de la langue française, mais évidemment, c'est vrai aussi des autres langues romanes. Hein. Donc on a cette langue latine qui est en train de se transformer. Je ne vais pas trop insister sur cette influence germanique, mais elle est extrêmement importante, hein, cette influence germanique sur la langue française qui était en devenir, car on n'était pas encore, c'était pas encore du français, c'était encore quelque chose qui ressemblait beaucoup au latin. Et cette langue avait tellement évolué à cause justement de des invasions germaniques, elle avait tellement évolué que ça n'était plus tout à fait du latin. Tout le monde croyait parler latin dans le pays, et en fait, c'était plus du latin. Et qui s'en rend compte ? Un germain, un franc, qui parlait francique, Charlemagne. Charlemagne parlait francique, il adorait le latin, mais il trouvait que tout de même, dans cette partie du monde, cette partie de son monde, on ne savait plus le latin. Il s'en est très très bien rendu compte. Et qu'a-t-il fait ? Il fait venir d'Angleterre, encore l'histoire des Anglais, hein, ils sont encore là, il fait venir d'Angleterre un grand savant qui s'appelait Alcuin, et il l'installe à Saint-Martin-de-Tours, en lui donnant comme mission de réenseigner le latin à ces pauvres petits Français qu'il avait oubliés. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, on a tellement de mots latins qui nous sont revenus. Tout à l'heure, je vous disais, vous savez, ce sont des mots qui sont revenus après. Ben oui, ils sont revenus grâce à Charlemagne, avec la Renaissance carolingienne, on a eu la Renaissance du latin, en fait. Le latin est revenu alors que la langue française avait beaucoup, beaucoup évolué. Eh bien, on a repris les mêmes mots qui nous était arrivé par la langue parlée qui avait évolué dans la bouche des gens qui la prononçaient comme ils pouvaient, eh bien, on reprend d'autres mots. Et c'est là qu'arrive ce qu'on a appelé des doublets, qui existent d'ailleurs aussi en portugais et qui existent aussi en italien. Qu'est-ce que c'est que des doublets ? Eh bien, ce sont deux mots qui viennent du même mot latin, mais l'un directement par la bouche, si j'ose dire, en étant prononcé et donc transformé, évolué complètement, phonétiquement. Et puis un autre qui nous est revenu plus tard sous une forme beaucoup plus latine, beaucoup plus longue, sans évolution, sans... Vous savez bien que les mots français sont, comme les mots portugais d'ailleurs, sont des mots qui en latin avaient deux ou trois syllabes et aujourd'hui n'en ont que deux ou une syllabe. Je veux dire par là que ce sont, parmi les langues romanes, celles qui sont allées le plus loin dans l'évolution par rapport au latin classique. Et donc, on a ainsi les doublets. Donc, alors je vais vous donner quelques exemples. Vous avez « droit », le mot « droit » français, qui vient de « directus ». Et on a réemprunté « direct » au moment où, justement, on a voulu relatiniser. Vous avez « froid » de frigidus et qui a donné également frigide. Vous avez écouter qui vient de auscultare et qui a donné également plus tard ausculter. Alors comme vous voyez, les doublets, ce ne sont pas des synonymes, hein. C'est pas la même chose, ça veut pas dire la même chose. Il y a une nuance entre écouter et ausculter, c'est pas pareil. On écoute, n'importe qui écoute. Qui est-ce qui ausculte ? Quelqu'un qui est savant, quelqu'un qui sait. C'est-à-dire le médecin, c'est-à-dire l'ouvrier spécialisé qui écoute le bruit de votre moteur, etc. Donc voilà, on a ainsi des différences quelquefois considérables entre le sens du mot d'origine, latine, avec l'évolution ou bien sans évolution. On a des choses formidables et on a quelquefois quelque chose qui est incroyable, mais vrai, et quelquefois on a l'un et son contraire, étant des doublets. Vous en connaissez certainement un. Je vous le donne en latin, et bien vous allez trouver. Potionem, en latin. Alors, potion et poison, voilà. Voilà. Hein? Alors là, c'était bon ça, hein? C'était bon parce que c'est vraiment le contraire. C'est intéressant de voir. Alors, je vous donne l'idée, peut-être d'en chercher et d'en trouver. Vous allez en trouver des tas. Moi, quand j'ai commencé à travailler la question, je sais pas, on en avait trouvé avec mon mari, je sais pas, 100 ou 150. Ça. Maintenant, je crois qu'on est à 300. On en trouve tous les jours des doublets comme ça. Alors, c'est intéressant, c'est quand on veut se distraire, on peut le faire. On peut faire la même chose aussi avec l'histoire des adjectifs devant, adjectifs après. Hein, quand on s'ennuie sur la route et qu'on n'est pas celui qui conduit, hein, Hein, et donc, on peut s'intéresser au nom. À ce moment-là, on ne s'est pas trop grondé, parce que évidemment, à ce moment-là, on ne dit pas « Attends, il faudrait que tu tournes là, parce que... » Voilà. Donc, vous pouvez prendre l'idée, et c'est vraiment intéressant. On apprend des tas de choses. Voilà. Donc, cette langue française, elle est en train de naître. Elle est en train de naître grâce à l'influence des germaniques, des langues germaniques qui viennent. Et puis, elle se relatinise, et puis elle prend des formes un petit peu particulières. Je crois qu'il ne faut jamais oublier ça. Quand on enseigne le français à des étrangers, par exemple, ou à des enfants, il faut leur rappeler cette histoire-là. Et c'est intéressant parce que ça leur permet aussi, d'une part, de voir que la langue française et la langue latine, ben, il y a quelque chose à voir là-dedans, et que si on prend certaines formes du français avec le latin, ça permet d'apprendre les autres langues romanes. Dire, ah ben oui, tu vois, en italien, en anglais, enfin l'anglais c'est autre chose, en espagnol, en portugais. Et donc ça permet d'ouvrir un petit peu plus l'esprit aux enfants. Pour, comme ça, ils se disent, ah ben oui, c'est vrai qu'en français, on a droit et direct. Et oui, et voilà, et on va le retrouver dans tel mot et dans tel autre, et dans tel autre mot. Donc, voilà nos langues. Et puis, la langue française a reçu, après, avant de devenir véritablement la langue que nous connaissons, le vieux français, etc., il y a eu l'influence des Arabes, par exemple, l'influence arabe par l'intermédiaire de l'espagnol ou du catalan, ou du provençal, quelquefois du lombard, parce que quelquefois c'est pas, ou du sicilien, quelquefois c'est passé par l'Italie. Bon, en tout cas, les mots arabes, ils nous sont arrivés par l'intermédiaire d'autres langues. Et puis, toutes les langues régionales. Alors là, les langues régionales, ça a été extraordinaire. C'est-à-dire que on dit toujours que, oui, bien sûr, c'est la langue française, la langue du roi. C'est vrai que c'est la langue du roi qui a eu beaucoup de prestige et qui est devenue la langue qu'il fallait savoir, bien entendu. Mais ce qui s'est produit, c'est que les gens continuaient à parler leur propre dialecte, leur propre patois, et ont commencé à apprendre aussi le français, qui était donc la langue qui, elle, a réuni beaucoup d'influences venues de beaucoup de langues différentes. Prenons par exemple les mots venus des langues régionales. Bijou, d'après vous, ça vient d'où ? Bijou, du breton. Ça vient du breton, ça vient d'un mot qui signifie le doigt. Et donc, le bijou, était, le premier bijou était sans doute une bague. Voilà, on peut dire les choses comme ça. Vous avez, par exemple, la brioche. Brioche qui vient d'où ? Normandie. Du Normand. Ça y est, vous avez trouvé ? Non ? Vous avez dit Vendée ? Ah oui, bon, hein, oui, ça aurait pu. Mais enfin, c'est ça. Le mot, attendez, je vais vous en donner d'autres. Le mot rescapé. Rescapé. Très récent. C'est un siècle, à peine. Oui, presque. 1906. Vous voyez, presque un siècle. Non, le Nord. Le Nord. Pourquoi ? Oui, ça aurait pu être. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Nord, c'est-à-dire en Picard, en Normano-Picard, puisque au début, c'était le Normand et le Picard qui étaient la même langue, le « que » du latin est resté « que » et n'est pas devenu « che » puis « che » comme en français. En français, on a eu « caballus » qui a fait « cheval ». On a eu Capra qui a fait chèvre, on a eu Canem qui a fait chien. Pas dans le Nord. Le petit quinquin, c'est le petit chéri, disons, mais à l'origine, c'est le petit chien-chien. Hein, quinquin, c'est ça. Voilà. Et donc, rescapé, on avait bien le mot réchappé en français. Mais il y a eu, en 1906, il y a eu un coup de grisou dans une mine du Nord. Et à ce moment-là, tous les gens sont allés, les journalistes sont allés, et ils ont entendu les gens dire « Mais il y a des rescapés, il y a des rescapés !» Et donc, ils ont réécrit. Au début, ils écrivaient dans leur journal « Il y a eu des rescapés, entre guillemets, comme disent les Picards. » Et puis après, les guillemets sont tombés et c'est resté un mot français. Voilà. Échantillon. Échantillon, ça vous dit rien ? Lyonnais. Lyonnais, c'est échantillon, c'est lyonnais. Amour. Comment ? Provençal, oui, vous savez pourquoi ? À cause de l'amour courtois, à cause du fait qu'il y a eu cette langue provençale, cette langue du midi de la France, qui a été une langue poétique avant que le français ne soit une langue poétique. Et cette langue provençale, qui a été la langue des troubadours, a beaucoup influencé les gens du Nord, à la cour de Marie de Champagne, qui était la fille d'Aliénor d'Aquitaine. Et donc, cette langue provençale, qu'on a appelée l'émosie, qu'on a appelée langue d'oc, etc., la plupart du temps, les gens ne... Enfin, il y a certaines personnes du Midi qui n'aiment pas du tout qu'on dise provençal pour parler de l'ensemble de la langue. Hein, parce qu'évidemment, il y a le provençal, il y a le languedocien, il y a le béarnais, il y a le gascon, il y a le limousin, il y a enfin, toutes les langues du Midi, toutes les langues d'oc. Mais enfin, ça a été... Donc, je dis amour. Amour à cause de ça. Mais pourquoi est-ce qu'on a pris ce mot ? Alors que le latin amor aurait dû donner quoi ? Amour. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que calore, ça a donné quoi ? Chaleur. Hein ? Odor, ça a donné odeur. Amor, ça aurait dû donner amour. Et d'ailleurs, il y a des traces du mot amour dans la langue française. Et puis un jour, on a eu amour à cause de toute cette poésie, toute cette histoire de l'amour courtois. Donc voilà. D'autres mots venus du Midi, parce que beaucoup, il y a eu beaucoup d'influence. Par exemple, le mot abeille. Abeille, c'est un mot vraiment intéressant pour l'évolution de la langue française. Qu'est-ce que c'était que le mot abeille en latin ? Apem, hein, disons, mettons-le à l'accusatif, apem. Or, que s'est-il passé dans l'histoire du français ? Les consonnes occlusives intervocaliques, c'est-à-dire occlusives, c'est-à-dire les consonnes où il y a un blocage, hein, apem, avec un peu. Bon. Apem, cette consonne intervocalique, au fur et à mesure de l'évolution, s'est affaiblie. Et finalement, comme je disais tout à l'heure, ben quelquefois, on ne l'a plus du tout entendu. D'où qu'a donné le mot « apem » en français, ben il avait évolué tellement que c'était devenu « et accent aigu ». C'était l'abeille. Or, « et », accent aigu, ça ressemble beaucoup à « et », « et ». Et donc, il y a eu une espèce de confusion là. Et on s'est dit, peut-être... inconsciemment, bien entendu, on s'est dit, tiens, peut-être faut-il un petit peu allonger ce mot. Et on aurait pu prendre apicula, le mot latin apicula. Eh bien, on a préféré prendre le mot du provençal qui était abeillo, et ça a fait abeille. Très curieusement, quand on a fait un diminutif, on a allongé le mot. Au lieu de le raccourcir, on l'a allongé. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer beaucoup de choses du même genre. De même pour, par exemple, prenons l'agneau. Dans agneau ou dans oiseau, on a un EAU à la fin qui correspond à un suffixe latin ellus, petit. Ce qui veut dire que quand on dit oiseau ou quand on dit agneau, agnus, hein, agnellus ou aouikellus, quand on dit oiseau ou agneau, on dit petit oiseau ou petit agneau. C'est-à-dire que si on dit un petit oiseau, on dit petit oiseau. Voilà. Et il faut le savoir. Alors, on n'y pense plus du tout, mais aujourd'hui, c'est effacé, c'est ça. Donc, voilà cette langue française qui prend de la forme, qui prend forme, disons, grâce aux apports des uns et des autres, ces langues régionales qui continuent à vivre leur belle vie, tandis que à partir du XVIe siècle, François Ier promulgue l'ordonnance de Villers-Cotterêts, 1539. Qu'est-ce que c'est que cette ordonnance ? Il est dit dans cette ordonnance que, dorénavant, tout, dans les tribunaux et dans les administrations de France, seul le français serait employé. C'était fait contre le latin, parce que on en était arrivé au point où, dans les tribunaux, les accusés ne savaient pas, ne comprenaient pas ce qu'on leur disait. Ils ne savaient pas s'ils étaient acquittés, s'ils n'étaient pas acquittés. Ils ne savaient rien. Et donc, c'était terrible de ne pas comprendre. Donc, il y a eu cette ordonnance de Villers-Cotterêts, disant qu'il faudrait que, dorénavant, ce soit la langue française qui l'emporte. En effet, c'est la langue française qui l'a emporté. Mais on continuait à parler patois chez soi, et on a parlé français dans les administrations ou dans les communications avec des gens des autres régions, bien entendu. Et donc, ces langues régionales ont continué à vivre, j'allais dire leur belle vie. Oui, leur belle vie jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'il y a eu, au moment de la Révolution, il y a eu une petite catastrophe, il faut dire. Hein. Il faut dire qu'il y a eu l'abbé Grégoire qui a décidé d'organiser une enquête en se disant... Bon, il faut absolument la République est une, il faut que la langue soit une. Et donc, il faut absolument que nous parlions tous la même langue, le français. Et donc, il fait son enquête. Et à la suite de son enquête, il se rend compte qu'il n'y avait à cette époque-là que 20% de la population qui parlait le français. Il n'y avait que ça. Tous les autres parlaient leur langue régionale. Et les gens se disent, tous les révolutionnaires se disent, il y a eu le discours de l'abbé Grégoire disant il faut absolument abolir les patois, mais on n'abolit pas les patois comme ça. Parce qu'à ce moment-là, ils se sont dit, il va falloir enseigner le français à tous les petits-enfants. Et donc, ils se sont dit, on va mettre une école, un instituteur dans chaque école, pour enseigner le français. Mais ils n'ont pas trouvé suffisamment d'instituteurs, de personnes pouvant enseigner le français, sachant suffisamment le français pour pouvoir l'enseigner. Et du coup, il y a eu la création des écoles normales d'instituteurs. Les écoles normales d'instituteurs étaient faites uniquement pour enseigner le français aux instituteurs qui allaient l'enseigner aux autres. Donc, c'était assez intéressant, disons. Et donc, cette langue a continué à vivre. Que s'est-il passé au moment de la Révolution ? Eh bien, au moment de la Révolution, on a eu un grand changement du vocabulaire. Il y a eu beaucoup de vocabulaire qui s'est introduit avec tout le langage de la chimie. Tout le vocabulaire des éléments chimiques, avec également, c'était aussi la naissance de la chimie vis-à-vis de l'alchimie, qui avait un vocabulaire pas du tout précis. Et donc, il y a eu cette nouveauté, disons, avec ce vocabulaire extrêmement précis, avec Lavoisier, etc. Il y a eu aussi des interdits dans les toponymes. Hein. Vous vous souvenez peut-être que Marly-le-Roi, il y avait roi dans Marly-le-Roi. On pouvait plus dire Marly-le-Roi, on a changé le nom et on a dit Marly-la-machine, puisque c'était une machine hydraulique permettant de remonter l'eau de la Seine vers le château. Donc, c'était une façon de faire. Et d'autres noms de lieux ont été transformés. On ne pouvait plus dire ni roi, ni comte, ni comtesse, ni duchesse, ni noble, ni rien du tout. Et vous savez comment on a appelé la ville de Grenoble ? Il y avait noble dans Grenoble. Alors que c'est faux, hein, c'est pas ça. Mais ça ne fait rien, il y avait la consonance de noble. Eh bien, on a appelé la ville de Grenoble Grelibre. Parce qu'à chaque fois, on mettait... La liberté était au milieu. Hein, il fallait véritablement la mettre. Il y a eu... attendez, Lyon. Oh, j'ai oublié comment c'était, Lyon. Je viens de l'oublier. Je viens de l'oublier. Mais ça ne fait rien. Marseille. Marseille a été punie. Alors là, c'était puni parce que elle était punie parce que on disait que elle avait trahi la patrie en faisant amitié avec l'Angleterre. Et donc on l'a appelée, on lui a donné la plus grande punition qu'on pouvait donner à une ville. On l'a appelée la ville sans nom. Voilà. Donc il y a eu ça. Ça a été véritablement quelque chose de terrible. Je dis qu'il y a eu des choses terribles parce que c'était aussi l'époque où le « ouais » devient « oua ». Vous savez, on disait « mouais », hein, pour dire « moi ». On disait « toué » pour « toi ». On disait « le roué » pour dire « le roi ». Et il y a eu une catastrophe pour une brave femme qui, un jour, avait demandé un roué. Elle a dit « il nous faut un roué ». Or... On l'a passé au tribunal révolutionnaire et on lui a dit « mais vous êtes royaliste ». Elle dit « non, moi je ne veux pas le rouet comme l'était Capet, mais je veux le rouet pour filer la laine ». Mais malheureusement, elle a pas été crue et donc on l'a guillotinée. C'était affreux. Donc il y a eu des histoires affreuses hein, à ce moment-là, même avec des histoires de prononciation, puisque lorsque les nobles sont revenus, ils s'étaient exilés. Quand ils sont revenus, eux, ils continuaient à dire le roué pour dire le roi. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas qu'ils étaient ringards à ce moment-là. Ça avait changé. Tout avait été bouleversé par la révolution. Il y a eu des tas de mots comme ça qui sont nés à ce moment-là. Il y a eu le mot instituteur dont je vous parlais tout à l'heure, parce qu'avant on disait le maître, on disait pas l'instituteur, mais instituteur c'est le mot qui est arrivé. Il y avait le mot terroriste, mais c'est pas les terroristes comme on les connaît aujourd'hui. C'était les gens de la terreur. C'était pire, peut-être, je sais pas. Pas pire, mais enfin c'était mauvais quand même. Donc voilà la révolution. Et peut-être faut-il rappeler qu'à un certain moment, on écrivait en français, on écrivait un français un petit peu bizarre. Qu'est-ce que c'est que l'histoire de notre orthographe? C'est une histoire un peu folle, hein, mais une histoire qui est intéressante de rappeler. Que s'était-il passé? L'évolution phonétique avait été très loin. Et il y avait eu la naissance de beaucoup de consonnes qui n'existaient pas en latin. Or, on n'avait que 23 lettres dans l'alphabet latin. Et donc, par exemple, pour écrire, il y avait eu ce qu'on a appelé la palatalisation de la consonne « que », dont je parlais tout à l'heure en français, hein, pour « chien », etc. Eh bien, cette palatalisation a donné naissance à des « tch », puis des « ch ». Comment faire ? Alors que ça n'existait pas en latin. Ben, on a rajouté un petit H à côté, donc CH, ça a fait CH. Bon, très bien, et donc, voilà. D'autre part, il n'y avait pas non plus de JE. Et le JE, on l'a écrit d'une certaine manière, avec un J ou avec un GE, mais ça, on s'était débrouillé un petit peu comme on pouvait. Et cette histoire de l'orthographe a été constamment balancée entre les gens qui voulaient être phonétiques avant tout, et ceux qui voulaient être étymologiques avant tout. Donc, si on voulait garder des traces du latin, alors on était étymologique. Et si on voulait faire quelque chose qui ressemble à la prononciation, alors on devient phonétique. Et constamment, on a eu des choses comme ça. Voilà pourquoi on a tellement d'aberrations dans notre orthographe. De temps en temps, on a eu la première tendance qui l'a emportée, et de temps en temps, c'est l'autre tendance qui l'a emportée. Au XVIe siècle, on a appris à faire la distinction dans l'orthographe, dans l'écrit, entre un I et un J. À un certain moment, on ne faisait pas la distinction. On écrivait soit « i », soit « j », mais c'était, ça se prononçait selon la place dans le mot. La même chose avec le « i » et « j » et « u » et « v ». Hein? Encore aujourd'hui, je crois que si vous, vous regardez bien, de temps en temps, vous avez « République française » qui est écrit « r-e-p-v-b-l-i-q-v-e ». Vous devez le voir, c'était comme en latin. C'était comme en latin où il n'y avait pas de distinction. Ce n'est qu'au XVIe siècle qu'on a commencé à distinguer. Et c'est une distinction qui nous est venue de c'est l'Espagne. C'est l'Espagnol qui nous l'a apporté, ainsi que le CCD. Le CCD, on ne l'avait pas avant. Hein. On écrivait CE plus la voyelle qui suivait. Donc, voilà une histoire de notre orthographe qui était vraiment une histoire compliquée. On dit aussi que en ce qui concerne l'étymologie, on dit que à partir du 13e, 14e siècle, les scribes ont voulu remettre beaucoup de consonnes qui se prononçaient plus depuis longtemps, peut-être parce qu'ils étaient payés à la ligne. Je ne sais pas, ça c'est les mauvaises langues qui disent ça, peut-être. Mais en tout cas, il est vrai que pour écrire 20, on avait le choix entre V-I-N, V-I-N-T. On a aujourd'hui le choix entre V-I-N, V-I-N-T, V-I-N-G-T. Mais ce G-là, il ne s'est jamais prononcé. Mais on l'a rajouté parce que justement, il fallait distinguer entre toutes ces choses. Prenez quand je vous dis un mot sans contexte. Je vous dis vert. Qu'est-ce que je vous ai dit ? La couleur, V-E-R-T ? Le petit inscrit, le vert de terre ? Vert, V-E-R-S ? Le vert, hein ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Et le vert et la pantoufle de vert, donc. Hein ? Voilà. Il y en a encore un, peut-être ? J'en ai oublié un ? Non ? Et le vert à boire ? Ah oui, le vert à boire, V-E-2-R-E. Et puis la couleur V-E-R-T, bien sûr. Voilà. Donc, c'était pas inintéressant, je vais vous dire, d'avoir toutes ces distinctions quand même dans l'orthographe. Mais malheureusement, on n'avait plus dans la prononciation. Oui ?
Dans les vieux textes, on voit souvent le S qui est représenté par quelque chose qui ressemble à un
F. Oui.
Est-ce que c'est une explication d'imprimerie ou une explication linguistique ?
Bon, c'est de l'imprimerie. C'est de l'imprimerie. C'était un S, mais c'est de l'imprimerie. C'est le S, oui, c'est ça, c'est un S d'imprimeur, voilà, un S allemand, comme vous dites, c'est ça. Et alors, c'est bien, la question du S est intéressante, parce que c'est à un certain moment, je crois que c'est au XVIIIe siècle, qu'on a commencé, fin du XVIIe, je crois, où on n'a plus écrit le S, qui ne se prononçait plus déjà devant les consonnes, et on l'a remplacé par l'accent circonflexe, hein. Hein, c'était l'époque où on a fait cette réforme orthographique assez incroyable. Donc, voilà le...
Vous avez dit qu'il y avait eu des évolutions soit
phonétiques, soit étymologiques.
Mais par exemple, le PH n'est ni l'un ni l'autre.
Ça rappelle simplement que ça vient du grec, point. Ah oui, bien sûr. Oui, mais attendez. Il y a eu une réforme en italien au XVIe siècle. Nous, on ne l'a pas eu. On n'a pas eu cette réforme. On aurait dû l'avoir. Parce qu'en effet, en italien, on comprend très bien, hein, la philosophie. Ça s'écrit avec deux F, deux fois F, je veux dire. Hein, bien sûr, vous avez raison. Oui, oui. Mais bon, c'est... En allemand aussi. Alors, mais pas en anglais. L'anglais, ils ont été influencés par le français. Hein, voilà. Oui, oui, mais c'est...
Alors, l'anglais est une langue aussi peu phonétique que le français.
Exactement. D'ailleurs, c'est de la faute du français. Que si l'anglais, si... Oui, oui, c'est ça. Il ne faut pas oublier ça, quand même. C'est vrai que nous avons influencé l'anglais. Oui, oui, monsieur.
Qui
écrit pour l'écriture, vous voulez dire ? pour l'écriture. Alors, ce qu'il y a, c'est que les Français ont accepté toutes les réformes de l'orthographe jusqu'au début du XXe siècle. À partir du mais c'est historique ce que je vous dis là, et je n'ai pas d'explication. Je sais simplement qu'à partir du début du XXe siècle, on n'a plus voulu. Jusque-là, on acceptait tous les diktats de l'Académie française. D'ailleurs, c'est l'Académie qui décidait, hein, à chacune des éditions, des nouvelles éditions de l'Académie, il y avait des nouveautés qui étaient acceptées par tout le monde. Et puis là, tout d'un coup, c'est fini, on ne veut plus. Je ne sais pas pourquoi. Il faut discuter avec les gens qui n'en veulent plus. Parce que rappelez-vous, en 1990, quand il y a eu cette petite tendance, on avait dit, ben oui, chariot, charrette, c'est idiot, pourquoi ? Vous rappelez aussi, il y avait le...
Un redoublement de consonnes en finnois,
ça a un sens, oui. Et pas en français, non, parce qu'il y a très longtemps qu'on prononce plus les géminés. il n'y a qu'en italien qu'il y ait ça ou en finnois, comme vous dites. Non, c'est normalement on devrait faire ces réformes. Simplement, maintenant on est bloqué, hein, les gens sont bloqués. Vous savez qu'à ce moment-là, il y a eu toute une discussion sur le nénuphar. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y a eu le nénuphar où les gens ont dit oui, mais enfin c'est embêtant. Comment on va nous enlever notre pH du nénuphar, etc. Alors que, attendez voir, nénuphar, ça ne vient pas du grec, ça vient du persan. Et on n'a jamais écrit avec PH, on l'a écrit avec PH simplement à une certaine époque. Avant, on l'écrivait avec un F. Pourquoi ce PH tout d'un coup? Pour faire savant. Mais c'est de la folie. C'était de la folie, voilà. C'était de la folie, vraiment. Et puis, vous connaissez l'histoire de événement quand même, non? Du mot événement. Hein? Donc, événement... Quand on est prof de français, on corrige tout de suite. Comment ça, événement ? Et deux fois accent aigu, voyons. Vous savez pourquoi ? Ah oui, vous ne savez pas. Alors, je vais vous dire. C'était l'époque où on a commencé à faire des distinctions entre l'accent aigu et l'accent grave et l'accent circonflexe. Autrement dit, c'était un moment où on a voulu véritablement faire des distinctions dans notre orthographe, dans notre façon d'écrire notre langue. Et donc, on a les imprimeurs ont fondu des caractères, des « et » accent aigu ensemble, hein, et accent grave ensemble. Et arrivé au mot « événement », l'imprimeur n'avait plus de « et » accent grave, parce qu'il n'en avait pas fabriqué assez. N'ayant pas plus, il a dit « tiens, j'ai des accents aigus, je vais mettre accent aigu ». Et alors, si vous prenez l'exemplaire de l'Académie française de cette année-là, de cette édition-là, j'ai oublié quelle date c'était exactement, mais enfin, vous pouvez vérifier. Au début, donc, il y a jusqu'à événement, il y avait eu les premiers, c'était bon, hein, il y avait des accents graves, et puis un petit peu après, de nouveau, il avait eu le temps de refabriquer des accents graves et on a enlevé. Et voilà pourquoi on a tellement puni les enfants qui écrivaient des choses. C'était eux qui avaient raison. Parce que événement et avènement, il n'y a pas de raison. C'est la même chose. Du point de vue de l'orthographe, ça devrait être la même chose. Voilà. Donc on a. Mais là, comme on se pose la question, on se dit mais pourquoi ? Alors que les Italiens l'ont fait, les Allemands l'ont fait, ben pas nous. C'est la vie. Je sais pas. Il faudrait faire quelque chose. Il faudrait faire quelque chose parce que au moment en 90, quand il avait été question de faire ces réformes, la communication n'avait pas été très bien faite. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de pédagogie. On n'a pas commencé par dire, attendez, il faut expliquer ce que c'est que l'histoire de l'orthographe, pourquoi il y a eu certaines choses bizarres, pourquoi, alors là, aussi une autre erreur, mais une autre erreur qui était intéressante, celle de poids, P-O-I-S et P-O-I-D-S. Le D de poids, P-O-I-D-S, il ne devrait pas être là. Pourquoi ? Ben parce qu'en latin, c'était pas pondus, c'était pensum pour le poids. Autrement dit, on devrait avoir un S pour le poids, celui qui pèse. Et donc, on l'a fait. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que dans l'orthographe, alors qu'on a une belle distinction entre POIS et POIDS, tandis que dans la prononciation, on ne l'a plus. Donc là, pour une fois, l'orthographe était intéressante, si j'ose dire. Quelquefois, c'est complètement ridicule, c'est complètement inutile. Mais là, c'était bien. Ça a eu un effet intéressant. Donc, on arrive au 19e siècle, la langue française prend son essor. Bien entendu, elle a pris son essor dès le 16e siècle. Elle devient importante. Au 18e siècle, elle a été une langue importante pour l'ensemble de l'Europe. On parlait français, on écrivait français. Il fallait savoir le français si on voulait être quelqu'un d'intéressant, de cultivé, etc., dans toutes les cours d'Europe ou dans les ambassades. Ça n'est plus vrai aujourd'hui. Encore que, il ne faudrait pas exagérer. Dans certains milieux, dans certains pays, si on sait le français, on est considéré comme quelqu'un de cultivé. Hein? Si on sait l'anglais, on est considéré comme quelqu'un de très intéressant, qui vit dans la vie moderne, qui est très allant, disons. Mais quand même, on a gardé un tout petit côté comme ça, un petit peu favorable. Encore que quelquefois, ce soit un petit peu considéré comme prétentieux. Donc, en même temps, prestigieux, mais un peu prétentieux. Mais c'est la vie. Alors, je voudrais maintenant dire où on en est aujourd'hui. Où en est-on aujourd'hui de l'évolution du français? Quels sont les traits qui ont changé tellement depuis les débuts depuis le début du XXe siècle? Que s'est-il passé? Eh bien, si vous prenez, bien sûr, il y a d'un côté toutes les langues régionales. Les langues régionales, celles que l'on appelle les dialectes, les patois, hein, le breton, le normand, le flamand, etc., etc., le corse. Et puis, il y a les français régionaux, c'est-à-dire la façon dont on parle le français dans les différentes régions, avec des prononciations particulières, avec des mots particuliers. Et puis, il y a l'évolution générale, disons, celle qui fait le gros paquet, disons, de l'évolution de la langue française, c'est cette langue française qu'on enseigne par exemple aux étrangers. Alors que s'est-il passé pour cette langue qui réunit pas mal de choses différentes? Ce qu'il y a eu, c'est la perte de la distinction de longueur en français, des voyelles longues. Jusqu'au début du 19e siècle et presque jusqu'à la fin du 19e siècle, on faisait la distinction entre un i bref et un i long. Par exemple, la différence entre lit et li. Li, le lit où on dort, et li, la li du vin. Ou bien entre boue et boue. Boue, le boue, hein, et la boue. Et puis, la différence entre le masculin et le féminin pour les mots en « et ». Par exemple, « armé », il est armé, et puis « l'armée ». Alors, avec des distinctions, parce qu'il y a des régions dans lesquelles on ne dit pas « l'armée », on dit « l'armée ». Ou d'autres régions où le « et » masculin, c'est-à-dire le « armé », on ne dit pas « armé », on dit « arme ». Par exemple, ben, en Vendée, ou dans le Poitou, ou en Pays Gallo, on dira le tureux, pour dire le curé. Hein, le tureux. Alors, bien sûr, on n'arrive pas tout à fait à le prononcer, mais bon. Et donc, il y a cette distinction entre le singulier et le pluriel aussi. Avec le pluriel, on avait une voyelle longue, et avec le singulier, on avait une voyelle brève. Alors, évidemment, aujourd'hui, quand je raconte ça, on dit, mais ça ne vaut pas, c'est des prononciations qui sont très, très, très régionales. C'est vrai, mais elles ont existé, et elles étaient généralisées à cette époque-là. Donc ça, c'est une évolution qui est en cours et qui est pratiquement terminée. Sinon, qu'il y a encore, aujourd'hui, des gens qui font la distinction entre le maître et le maître. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a. Non, le maître a mesuré. Oui, je sais. Alors, mon mari fait la différence, lui, entre le maître et le maître. Et il se moque de moi parce que moi, je ne la fais pas. Donc voilà, vous êtes aussi parmi ceux qui font la distinction entre... Oui, il y en a qui la font encore. Donc, puis il y a la... elle est bien faite, et puis la fête. Hein, la fête, accent circonflexe, bien sûr. Et puis le fait de l'arbre, ou de la maison, ou je ne sais pas quoi. Voilà. Il y en a parmi vous, non? Oui? Un peu? Vous l'entendez? Quoi? C'est inconscient, mais vous la faites. Oui, c'est ça. Alors, il y a une autre chose qui est en train de se perdre. C'est, enfin, oui, qui est en train de se perdre, mais presque complètement. C'est cette distinction qui existait dans la région parisienne des deux A. Le A et le or. Alors, le A de la patte du chien et le or de la pâte que l'on mange, avec laquelle on fait un gâteau. Alors, évidemment, là, il y en a peut-être parmi vous qui font cette différence. Oui, oui, et puis il y en a qui ne la font pas. Voilà. Donc, et vous avez des régions dans lesquelles ce n'est pas A, O, donc avec une différence de timbre, A, O, mais A, A, allons, A voyelle longue. Comme par exemple chez les Belges. En Belgique, on fait comme ça. C'est la différence entre pâte et pâte, mais pas pâte et pente. Voilà. Alors là, on divise la France en deux. Enfin, oui, la francophonie d'Europe, nous dirons, en deux. Alors, à l'est, et Paris est à peu près au milieu. À l'est, c'est... Enfin, il faudrait que je me mette comme ça pour que vous... À l'est, donc, voyelle longue, pâte-pâte, et à l'ouest, pâte-pâte. Hein? Alors, pâte, avec un or comme ça, très, 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 très profond, et qui fait la différence entre les deux moitiés de la France, la moitié du français, disons, est-ouest. Hein? Avec au sud, pas de différence du tout. Attention, oui, parce que dans le midi, pas du tout. Mais dans le midi, ils ont autre chose. Ils ont gardé le E que nous ne prononçons pas. Hein? Eux, ils font la différence entre sol et sol. Et nous, non. Voilà. Et entre Rome et Rome, hein, etc. Hein, voilà, je ne vais pas insister. Voilà. Et puis, il y a un troisième point de la prononciation qui est la différence entre un et un. Ah, ah. Oui, alors là, on a un et un. Un brin d'herbe et un homme brun. Voilà. Alors, en général, on l'enseigne aux enfants parce que ça s'écrit autrement. Bien sûr, il y a I-N et U-N. On fait ou on ne fait pas la différence. Il y a des gens qui la font. Moi, je la fais tranquillement. Ça ne me gêne pas du tout. Et mon mari ne la fait pas du tout. Et ça ne le gêne pas non plus. Voilà. Mais on n'a pas été élevés dans la même région. Voilà pourquoi il y en a qui font ces distinctions, qui les font ou qui ne les font pas. Voilà. Alors, évidemment, on comprend pourquoi, pour un et un, pourquoi ça, c'est en train de se perdre. C'est en train de se perdre parce qu'il y a très peu de mots qui se distinguent par un et un. Il y en a très, très peu. Il y en a très peu, en fait, qui ont des graphies UN. Il y en a une vingtaine. On en trouve 50, mais avec des mots très, très savants, en plus. Voilà. Mais sinon, ça suffit. C'est pas assez pour pouvoir obliger les gens. Alors, simplement, on ne les oblige pas. Mais moi, ça m'intéresse de dire un franc et pas un franc. Et puis de dire Melun et pas Melun. Alors, je ne sais pas comment on fait à Melun. Comment on fait? Un ou un? Ça dépend des gens. Comment? Comment c'est? Un? Un? Avec arrondissement des lèvres? Ah, bravo. Oui, c'est bien, parce que quand même, vous avez ça dans l'orthographe de votre nom, de votre nom de ville, hein, de votre toponyme, donc c'est bien normal. Autre chose dans l'évolution actuelle, c'est l'évolution, le manque d'accord pour les participes passés. Alors là, c'est terrible, on ne les fait plus du tout, on ne sait plus où on en est, voilà. Alors, on dit que les femmes les font plus que les hommes, parce qu'elles ont l'habitude d'avoir un féminin, n'est-ce pas, de faire l'accord avec le féminin, tandis que les hommes, c'est le masculin, et donc voilà. On dit ça, je ne sais pas si c'est vrai, il faudrait faire l'enquête là, ce serait intéressant à distinguer, à voir. Et puis, il y a les pronoms relatifs, les pronoms relatifs, l'on. Lequel, laquelle, duquel. Et puis don aussi, qui n'est pas tellement fréquent. Alors là, une fois sur deux, les gens se trompent. Ils disent... Comment ?
Ce sont des formes assez littéraires.
Exactement, mais des gens très, très, très cultivés se trompent. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire un mot au singulier, ils vont vous mettre avec lesquels, pas avec lequel. Ou le contraire. Moi, je passe mon temps à les relever. Alors, ce qui se produit, c'est que vous avez deux types de personnes. Ce sont toujours des gens qui sont cultivés, hein, qui sont, comme vous dites, c'est littéraire. Il y a ceux qui s'en rendent compte et qui se corrigent immédiatement après. Et il y a ceux qui ne s'en rendent pas compte. Et il faut, quand on leur dit, je dis, mais vous savez ce que vous venez de dire ? Ah non, je ne vais pas dire ça. Je fais le magnétophone, là. Le prochain coup, je fais le magnétophone. J'écoute, écoutez bien. C'est intéressant parce que les gens ne s'en rendent pas compte. Ils ont l'impression qu'ils ont fait l'accord et en fait, ils ne l'ont pas fait. Curieux. C'est vraiment curieux. Et ça n'est pas parce qu'on dit oui, toujours le singulier ou toujours le pluriel. Non, ça dépend. Quelquefois l'un, quelquefois l'autre. Et puis alors, il y a toutes ces nouveautés avec les abréviations. Alors, jusqu'aux trois quarts du XXe siècle, les abréviations se faisaient en O. On disait par exemple prolo, un prolo. Populo. Hein? Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, ça ne nous gêne pas du tout de dire les bourges, pour dire les bourgeois. Les bourges. C'est-à-dire, on termine par une consonne, ça n'a pas d'importance. On dit le petit-déj, sans problème. Sans problème. On a toutes ces abréviations qui étaient avant presque obligatoirement terminées par une voyelle. Maintenant, on y va gaiement, on fait ce qu'on veut. On fait des métaphores très intéressantes qui ont qui prennent naissance souvent dans l'informatique. Quand on dit, par exemple, oh là là, je suis fatiguée, j'imprime plus. J'imprime plus. Hein? Ou bien, vous souvenez peut-être, il y a quelques années, il y avait le fait, on parlait d'une jeune femme et on disait, oh ben elle est... C'est un fax. Elle est maigre comme un fax parce qu'elle passe par le. On disait ça, oui, oui. Je ne sais pas si ça se dit encore. Je crois qu'on ne l'a plus dit. Oui, dites. Je me faxe, comment on dit dans le métro ? Je me faxe. Oh, c'est incroyable, ça, c'est très bien. C'est très bien aussi. Donc, c'est la continuation de ce qui se passait déjà il y a quelque temps quand on disait qu'une fille était mince, quoi. Elle était trop mince, hein, disons. Alors, il y a tout ce vocabulaire. Il y a le problème du verlan. Alors, le verlan, à un moment, ça a été une grande vogue. Hein, dans les années 80, les années 70, 80, ça a été formidable. Tout le monde, on faisait du verlan. Et puis c'était vivant. On faisait de nouveaux mots en verlan. Aujourd'hui, il semble que ça se soit un petit peu apaisé, cette histoire du verlan. Parce que le verlan, c'est intéressant, hein, le verlan, parce que, bien sûr, on peut jouer avec le verlan, on met une consonne pour une autre, et puis l'autre, on la remplace. Donc, c'est bien. On dit féca pour dire café, on dit tromé pour dire métro, etc. Donc c'est amusant. Mais ça n'est plus... vraiment vivant. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'à un moment, c'est passé de la banlieue vers la ville. Et puis, une fois que c'est arrivé dans la ville, c'est terminé, ça s'est lexicalisé. Ça s'est un peu durci. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de nouvelles formes. Vous savez, il y avait eu à un moment du verlan et puis du retour. C'est-à-dire du verlan de verlan. Quand on a eu, par exemple, arabe qui a fait beurre, après, on a fait rebeu. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Deuxième G. Maintenant, deuxième G. Pourquoi ? Deuxième génération. Autrement dit, on est passé par du verlan. Du verlan de verlan. Et quand on pouvait pas faire encore du re-verlan de verlan de verlan, on a dit, ben, seconde G, c'est mieux. On trouve tout de suite seconde génération, c'est bien. Qu'est-ce que j'avais encore? Oui, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui peut se trouver également? On a par exemple, quand on dit de quelqu'un, oh ben lui c'est un dico, c'est-à-dire il est très fort, mais lui c'est un Canal+. On le comprend pas parce que c'est codé. Hein, c'est codé, donc on ne le comprend pas. Qu'est-ce qu'on avait aussi oui, lui, il n'a plus rien dans le disque dur. Voilà. Alors, très souvent, aujourd'hui, on fait des plaisanteries de ce genre-là. Pardon ? Il faut changer de logiciel, exactement. Oui, c'est ça. Et donc, voilà. Et bon, alors aujourd'hui, on avance avec ça. Les mots de demain, c'est quoi? Ben, on a une plus grande liberté pour créer des mots, alors que la génération précédente n'acceptait pas trop la création de nouveaux mots. Aujourd'hui, j'ai l'impression que, par exemple, syntaxiquement, il y a certains verbes qui peuvent être conjugués autrement qu'autrefois. Exemple, assurer. Tout seul. Hein? Avant, on assurait sa voiture, on assurait son appartement, mais on n'assurait pas tout court. Aujourd'hui, on assure tout court. Hein? On assure tout court, ça ne veut pas dire la même chose. Hein? Donc, il y a peut-être cette nouvelle liberté que l'on se donne et que l'on prend. Bien sûr, je n'ai pas du tout parlé des emprunts de la langue française à d'autres langues, et je n'ai pas parlé du tout du fait que nous avons l'anglais qui est à côté, là, et auquel nous empruntons largement. On emprunte aujourd'hui depuis à peu près, la fin du 18e siècle. L'anglais, lui, a emprunté au français depuis le milieu du XIe siècle. Autrement dit, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup plus de mots français en anglais qu'il n'y a de mots anglais en français, bien sûr. Il y a des anglicismes qui sont intéressants et d'autres qui sont moins intéressants. Il y en a pour lesquels, vraiment, c'est tout à fait inutile. Par exemple, le verbe se cracher, hein, pour un avion qui se crache. C'est vraiment inutile. Inutile. On peut dire qu'il s'écrase. Ça suffit. C'est la même chose. Mais il y a des anglicismes qui sont pas mal du tout. C'est pas parce que on le prend à l'anglais qu'on va pas le prendre. Je veux dire qu'il faut être un peu lucide. Il faut être un petit peu. Il faut regarder. Exemple. Moi, il y en a un pour lequel je milite, disons, un anglicisme pour lequel je milite. C'est le verbe nominer. Nominer, alors les gens vous disent, ah ben non, comment nominer, c'est un mot anglais. Comment c'est un mot anglais? C'est un mot latin. Nominare, c'est du latin. Il se conjugue comme le verbe dominer, français. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Il est du premier groupe, formidable. Nominer, ça n'est pas nommer, c'est pas le même sens. On nomme après avoir nominé. Et puis voilà, c'est pas parce que ça nous est venu par les Américains qu'on va l'éviter. Non, il est bon. Moi, je prends. Moi, je garde. Celui-là, je le garde. Bon, mais il y en a pour lesquels je suis contre. Il y en a un contre lequel je suis complètement. Et c'est l'habitude récente, enfin, depuis quelques années, de prendre la lettre E, que l'on prononce I, et on fait e-learning. Ou e-book, ou e-apprentissage, ou etc., au lieu de dire apprentissage en ligne. Je veux dire par là que c'est vrai que ça veut dire ça, mais c'est vrai que de dire le E, ce E-là, qui est ni de français ni de l'anglais, qu'on va prononcer pour une fois avec un I, alors qu'aucun E de la langue française ne se prononce avec un I, pour lequel on ne comprend rien. On ne comprend pas si on ne vous dit pas de quoi il s'agit. Je ne sais pas, quand j'ai commencé à en parler, peut-être que vous ne compreniez même pas de quoi je parlais. Hein? Donc, voilà. Alors là, c'est un petit peu dommage. Alors évidemment, on propose de dire apprentissage en ligne, ce qui est intéressant parce qu'on voit tout de suite de quoi il s'agit. Malheureusement, bien sûr, en ligne, c'est plus long que e-learning. Bien sûr, oui. Oui, c'est vrai, mais de temps en temps, peut-être. Peut-être qu'il faut prendre des choses plus longues. Vous savez, on a un exemple dans la langue française. En général, quand un mot est de plus en plus fréquent, il devient de plus en plus court, on le raccourcit. On a eu le cinématographe. Après, on a eu, quand on est beaucoup allé au cinéma, on est allé au cinéma. Puis, quand on est allé beaucoup plus au cinéma, on est allé au ciné. Mais quand la télévision a pris la relève, eh bien, on n'a plus dit ciné, on a dit cinéma. Et aujourd'hui, on va au cinéma, on ne va pas au ciné. On va au cinéma. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'accordéon qui se fabrique, avec une petite exception qui est la suivante. Aujourd'hui. Aujourd'hui est un mot extraordinaire qui est, ou pour lequel on dit jour, aujourd'hui, aujourd'hui. Et ce qui est extraordinaire, c'est que non content d'avoir déjà dit deux fois jour, on le dit une troisième fois. Vous avez des tas de gens qui disent au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment insister pour dire attention, c'est bien, alors que ça suffit. Déjà, aujourd'hui, c'est trop, si j'ose dire. Il y avait une question. Non ? Monsieur Walter avait une question ? Avait-il une question ? Ah. Sur l'anglais. Ah oui. 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 Ciné. Et après, on revient à cinéma. Cinoche. Ah oui, bien sûr. Mais tout d'accord. Je suis d'accord. Mais justement, cinoche, c'est un peu argotique. Et en fait, aujourd'hui, moi, je l'entends plus, le cinoche. Vous l'entendez ? Non, hein ? Cinéma. On va au cinéma. Est-ce qu'on va au ciné ? Peut-être. Je sais pas. Alors, il y a eu aussi l'histoire de télévision. Alors, télévision, on a fait télé. Hein, d'accord. Mais téléphone, on n'a jamais fait télé. C'est-à-dire que le téléphone est arrivé avant la télévision. On aurait pu raccourcir notre mot téléphone. On ne l'a pas raccourci. Pourquoi ? Eh bien, peut-être que, alors qu'en anglais, on l'a raccourci, on a dit phone. Hein, on avait téléphone et puis phone. Bon. En français, on ne l'a pas raccourci. Peut-être que parce que nous avons eu le téléphone n'a pas été très, très, comment dirais-je, très habituel très vite. Voilà. On a eu le téléphone beaucoup plus tard que peut-être nos amis anglophones. Voilà. Et ben voilà. Voilà, nous avons fait le tour. Oui, allez-y. Les liaisons qui ne se font plus. €10. Ah oui, 10 euros. Ah oui. Ça dépend des gens, vous savez, avec l'histoire des 10 euros. Moi, je dis 2 euros, 10 euros. Qu'est-ce que vous dites ? 1 euro. Ah, avec le 1, peut-être. 1 euro et pas 1 euro. Qu'est-ce que vous dites ? 1 euro ? Moi, je dis 1 euro. Qu'est-ce que vous avez entendu ?
À la télé aujourd'hui, 100 euros.
100 euros. Ah oui, là, c'est encore pire, là. Ah oui, oui, il y a 100 euros qui est intéressant aussi. Oui, 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 ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Non, alors, l'histoire des liaisons, c'est vrai que c'est très, très, très compliqué. Il y avait, autrefois, on disait, il y a les liaisons obligatoires et puis les liaisons facultatives. Hein ? On disait ça. Mais en fait, maintenant, ça n'existe plus, les obligatoires et les facultatives. Je n'en vois pas, je ne les vois plus. À part l'histoire des H aspirés, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, les euros, non, les euros, hein, il me semble, les euros, avec le T. 500 euros. Ah oui, 500 euros. Et voilà pourquoi 100 euros.
Oui, c'est ça.
Voilà, c'est peut-être la raison pour laquelle il y a ce 100 euros qui est un peu bizarre. Oui. Ouais. Mais je sais pas à quoi c'est assez attribué. Je sais pas. Et puis vous avez des gens qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup de liaisons, plus que de nature, si j'ose dire. Il y a quelqu'un à la télé, à la radio, le matin. Comment il s'appelle? Bernard Guetta. Hein? Il fait des liaisons qu'on ne fait pas normalement. On ne fait pas, mais lui, il les fait. C'est curieux, c'est très, très curieux. Oui?
J'ai une question sur le latin. Le latin est resté une langue officielle en France pour le domaine scientifique très tard.
Jusqu'au XVIIIe siècle, oui. Oui. C'était, je crois que c'est Jussieu. Je crois que Buffon, je ne sais pas si à la fin de sa vie, il a écrit un article en latin. Son histoire naturelle est en français. Mais je crois que c'est Jussieu qui a été le dernier à écrire en latin en France. Je crois, mais je ne suis pas sûre. Ah oui, oui, on a mis très longtemps à oublier le latin, si j'ose dire. Et puis, de toute façon, il y a tout ce latin des botanistes, enfin des naturalistes, disons, qui est un latin très, très, très particulier, un latin à eux, qui n'est pas du vrai latin, qui n'est ni du latin, ni du latin classique, ni du latin vulgaire. C'est latin à eux. Ah, on discutait d'horaire, pardon. Il est quelle heure? Ah, oui. Oui, oui, oui. Vous pouvez nous emmener au train? Alors, on y va? Alors, on y va.